Bienvenue sur le podcast de la fraudologie. Je suis Denis Pénaud, spécialiste de la lutte contre la fraude, et je vous propose de découvrir ensemble toutes les solutions qui vous aideront à mieux vous protéger de la fraude. Nous partagerons l'expérience de personnes qui ont vécu une fraude et les points de vue des meilleurs spécialistes. L'objectif est simple: vous immuniser contre la fraude. Aujourd'hui, je vous propose de poursuivre la série sur l'explication des principaux types de fraudes rencontrées par les entreprises françaises en 2019. Et donc, nous allons parler de l'usurpation d'identité au sens large, même si la forme la plus connue et la plus médiatisée de ce type de fraude est le faux président. Et elle a même fait l'objet d'un film en 2015 qui s'appelle « Je compte sur vous » et qui raconte l'histoire de l'inventeur de cette fraude, Gilbert Chicly, un franco-israélien qui a escroqué plusieurs dizaines de grandes entreprises et de banques entre 2010 et 2015. Alors cette fraude, on en a parlé dans les épisodes 2 et 3 du podcast, donc je vais reprendre ici le process complet et je vais surtout y ajouter quelques précisions sur les autres possibilités d'usurpation d'identité, sur les risques qui sont nouveaux et qui sont liés aux outils de travail à distance qu'on utilise de plus en plus. Et je vais vous parler enfin d'un type d'usurpation d'identité qui est moins connu, qui est le faux technicien bancaire. Donc, le grand principe de la fraude au faux président, vous l'avez entendu quand j'ai échangé avec Fabien Pelletier et Céline Camacho, c'est un fraudeur qui contacte en direct un comptable ou un responsable comptable ou un directeur financier, et en tout cas qui va mettre sous pression cette personne-là en parlant d'une opération importante, stratégique même pour l'entreprise. Alors ça peut être une acquisition dans une croissance externe, un achat de matières premières à des prix très préférentiels qui permettra à l'entreprise de se développer encore plus vite, mais qui doit être réalisé rapidement. Ça, l'urgence et l'importance de l'opération sont deux critères hyper courants et toujours présents dans ce type de fraude. Le fraudeur va chercher aussi à flatter son interlocuteur pour essayer d'endormir sa vigilance. C'est notamment pour ça que le titre du film dont je vous parlais en introduction, ça s'appelle « Je compte sur vous ». C'est parce que le fraudeur cherche à valoriser sa proie en affirmant qu'il a beaucoup entendu parler de lui, que c'est la personne digne de confiance dont il a besoin, que cette personne-là a de grandes compétences, etc. Donc la flatterie, l'urgence, l'importance, c'est vraiment des critères qui sont récurrents. Donc l'objectif du fraudeur, c'est d'arriver à faire un virement à sa victime vers un compte dont il va évidemment lui fournir le numéro. Alors au début de ce type de fraude, à sa genèse en 2010, c'était souvent vers des comptes à l'étranger. Donc les entreprises ont réussi petit à petit à s'adapter et à déjouer ce type de fraude parce qu'elles arrivaient à identifier que le compte n'était pas un compte français et donc les fonds allaient partir dans un pays avec lequel elles n'avaient pas l'habitude de travailler. Mais les fraudeurs ont compris le truc et donc créent maintenant des comptes en France et donc fournissent un IBAN français à leurs victimes. Donc c'est beaucoup plus difficile d'identifier par ce critère-là qu'on est en face d'une fraude. Donc une fois que le fraudeur a réussi à faire le virement vers ce compte, vous imaginez bien que les fonds disparaissent et partent à destination de l'étranger, quel que soit le pays, et que l'entreprise a assez peu de chances de pouvoir les récupérer par la suite. Un autre signal d'alerte qui peut vous permettre d'identifier ce type de fraude, c'est le moment que va choisir le fraudeur pour s'attaquer à votre entreprise. Il va chercher à contacter donc les comptables au moment où le décideur n'est potentiellement pas présent, c'est-à-dire pendant ses périodes de congé ou pendant une absence exceptionnelle. Ça peut être un conseil d'administration, comme dans le cas de Fabien Pelletier dans le deuxième épisode du podcast, mais ça peut être pendant un déplacement sur un salon professionnel, pendant un voyage, donc en tout cas, toutes les situations pendant lesquelles le dirigeant n'est potentiellement pas joignable sont des situations de fragilité que le fraudeur va essayer de mettre à profit. Donc ça doit vous permettre d'identifier que pendant ces périodes-là, c'est important dans la sensibilisation des équipes de leur dire, dans ces périodes-là, le décideur ou le directeur financier ne sont pas disponibles, ne sont pas joignables, donc aucune opération exceptionnelle ne doit se faire pendant cette période. Alors, il paraît important de souligner que le fraudeur ne va pas forcément se faire passer pour le dirigeant. Pour arriver à ses fins, il peut très bien prétendre être un avocat d'affaires ou un banquier, le banquier de l'entreprise. Ça peut être l'expert comptable, ça peut être une autorité publique comme la police judiciaire ou que sais-je. En tout cas, le fraudeur peut endosser n'importe quel costume à partir du moment où ça va lui donner un ascendant sur son interlocuteur. Et donc c'est pour ça que je parle d'usurpation d'identité et pas seulement de fraude au faux président, parce qu'il peut prendre l'identité de quelqu'un d'autre que le président. Maintenant que vous voyez bien le processus utilisé par le fraudeur pour arriver à leur fin, je voudrais souligner quelques fragilités qui sont nées de la généralisation du travail à distance. C'est d'autant plus d'actualité que nous sommes actuellement mi-2020 et nous ne sommes sortis du confinement lié au coronavirus que depuis quelques semaines et de nombreuses entreprises envisagent de rendre le télétravail plus accessible à leurs salariés. Or, pour parvenir à ses fins, le fraudeur va chercher systématiquement à isoler sa victime. Il va chercher à la manipuler pour arriver donc à lui faire faire un virement. Et c'est très difficile pour la victime de sortir de ce cercle vicieux parce que quand on commence à être manipulé, finalement l'esprit humain a beaucoup de mal à sortir de l'histoire qu'on est en train de lui raconter. Donc pour arriver à l'en faire sortir, le meilleur moyen c'est d'arriver à rompre cet isolement. Parce que c'est beaucoup plus facile pour une personne extérieure à la situation d'identifier qu'il se passe quelque chose d'anormal. Donc il faut arriver à installer dans l'entreprise une pratique qui consiste à solliciter l'avis d'un tiers, d'un binôme ou d'une autre personne référente, en tout cas identifiée à l'avance, que la victime potentielle va pouvoir contacter pour lever un doute si elle en a un. Alors évidemment, ça peut être le manager, mais ça peut très bien être un autre collègue qui se trouve lui aussi à distance et qui pourra être contacté soit par téléphone, soit par mail, soit par messagerie instantanée, pourquoi pas. Mais quoi qu'il arrive, il faut trouver un moyen de ne pas laisser les personnes seules quand elles se retrouvent dans cette situation. Alors avec le télétravail et suite à la période de confinement, on a vu aussi se développer à outrance tous les outils de visioconférence comme Zoom, Teams et tant d'autres. Et on n'est plus du tout choqué d'avoir une image de mauvaise qualité du moment qu'on arrive à se voir et à recréer un semblant de lien humain. Or, c'est justement ce genre de fragilité qui a été utilisé toujours par le même Gilbert Chicly entre 2015 et 2017 dans une fraude qui a été qualifiée de fraude au faux Jean-Yves Le Drian, qui était donc à l'époque ministre de la Défense. Donc les fraudeurs se faisaient passer pour des membres officiels de cabinets ministériels pour essayer de récupérer des fonds pour notamment des libérations d'otages auprès de grandes entreprises ou de grandes associations ou de personnalités du monde économique un peu partout dans le monde. Donc ça se passait en plusieurs étapes. D'abord, ils envoyaient des courriers avec des en-têtes officielles à leur cible. Ensuite, ils passaient des coups de fil, en tout cas, ils mettaient tout en œuvre pour arriver à convaincre leurs victimes potentielles de la véracité de la situation. Tout ça pour aboutir à une visioconférence avec Jean-Yves Le Drian lui-même, donc le ministre de la Défense de l'époque, et la visio avait réellement lieu avec quelqu'un qui portait finalement un masque en silicone de Jean-Yves Le Drian. Vous pourrez trouver des images et des articles sur le sujet un peu partout sur Internet, parce que le procès qui a suivi cette fraude a débuté au début de l'année 2020. Et ça a permis aux fraudeurs de détourner plusieurs dizaines de millions d'euros auprès de quelques-unes des personnalités ou des entreprises qui se sont fait avoir. En tout cas, cet exemple nous enseigne quelque chose qui me paraît important dans le contexte actuel. C'est que, avec la généralisation de ces outils de travail à distance en visio, les fraudeurs peuvent rendre encore plus crédibles leurs attaques, parce que vous imaginez vous retrouver en visioconférence avec votre dirigeant, même si l'image est un peu dégradée, c'est encore plus difficile de sortir de cette histoire, quoi. Donc en matière de sensibilisation des équipes comptables, je ne peux que vous encourager à partager qu'une fraude au président, ça peut arriver non seulement par téléphone ou par courrier ou par mail, mais maintenant également en visio. Maintenant, je voudrais partager avec vous un dernier cas qui est moins médiatique, c'est la fraude aux faux techniciens bancaires. Alors moi, j'ai personnellement travaillé dans une banque pendant plusieurs années dans le domaine des flux bancaires, c'est-à-dire tous les moyens de paiement et les solutions qu'une entreprise peut utiliser pour communiquer avec sa banque. Et il n'est pas rare que les banques fassent des correctifs sur leur site internet ou sur leur système informatique, et que ça provoque notamment des coupures de service pour leurs clients. Vous l'avez peut-être déjà vécu comme moi, le site internet de l'entreprise, de la banque, qui n'est pas disponible, et ça nous agace parce qu'on ne peut pas consulter son compte ou faire des virements, mais c'est à ce prix-là que les systèmes informatiques bancaires suivent les nouvelles normes et s'améliorent progressivement. Donc les fraudeurs peuvent exploiter ces situations en appelant les entreprises et en prétextant des tests suite à ce type de correctif technique. Donc le principe est assez simple, le fraudeur va se faire passer pour un technicien et va prétexter donc ses tests pour prendre la main à distance sur le poste de la comptable ou du comptable pour essayer de faire un virement qui va permettre de valider si tout est en ordre et que l'entreprise puisse continuer à payer ses fournisseurs et à se faire payer. Et donc si vous le laissez faire, eh bien il va réaliser un virement qui est potentiellement de plusieurs dizaines de milliers d'euros vers un compte de test, entre guillemets, et c'est des fonds évidemment que vous ne retrouverez jamais. Alors plusieurs recommandations par rapport à ça, et maintenant que vous savez que ça existe, c'est... 1. D'abord, ne jamais laisser quelqu'un prendre la main à distance sur votre poste sans rester attentif à ce qui se passe. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver quand vous travaillez avec une ou plusieurs banques ou un prestataire informatique. Les outils de prise en main à distance, c'est quelque chose qui est monnaie courante et qui permet de faire gagner du temps à tout le monde. Ce qui est important, c'est de ne pas laisser le technicien intervenir sans contrôle. Parce que si le fraudeur a la main, il peut faire exactement ce qu'il veut. Donc il ne faut pas être trop crédule par rapport à ça. Et surtout, il n'y a aucune raison que le technicien, même si son appel est légitime, fasse des tests qui représentent des virements de plus de 1 centime d'euro, voire de 1 euro. Donc ça aussi, c'est un critère qu'il faut avoir en tête pour juger si l'action de la personne qui est en train d'intervenir sur votre poste est normale ou pas. Et deuxième chose, il faut faire très attention, même si vous avez l'habitude de travailler avec des techniciens que vous avez régulièrement au téléphone, vous connaissez leur nom, vous connaissez leur voix, vous connaissez leur façon de parler, eh bien le fraudeur, dites-vous, qui peut très bien avoir appelé votre banque et son service technique pour avoir les techniciens, et ce faisant, il entend leur voix, il entend leur façon de parler, il connaît leur nom, et donc il peut se retourner vers vous avec les mêmes informations. Donc le faux technicien bancaire, il ne faut pas le négliger, c'est quelque chose qui arrive malheureusement, et les fraudeurs sont extrêmement bien renseignés sur les outils qui sont utilisés par les entreprises et les personnels qui permettent de faire la maintenance. Donc attention à ça, c'est vraiment une usurpation d'identité qui peut prendre de l'ampleur dans les années qui viennent. Voilà, j'arrive au bout de cette séance de fraudologie, j'espère que vous y voyez plus précisément comment s'y prennent les fraudeurs. Et surtout, n'hésitez pas à en mettre en application ces quelques conseils pour protéger votre entreprise ou pour vous protéger, vous et vos collègues, parce que subir une tentative de fraude peut être un vrai traumatisme, un peu comme quand quelqu'un rentre chez vous par effraction. Même s'il ne vole rien, à la limite c'est pas grave, on garde une trace profonde et douloureuse de cette expérience, donc il vaut mieux éviter de la vivre, et c'est ce que j'espère vous aider à faire avec mes conseils. Merci. Merci d'avoir suivi cette séance jusqu'au bout. Pour faire connaître la fraudologie et participer à notre immunisation collective de la fraude, merci de partager cet épisode à vos amis et à vos collègues, de lui donner une note 5 étoiles et de me laisser vos commentaires pour faire progresser ce podcast ou pourquoi pas me proposer des sujets à aborder dans une prochaine séance. Enfin, si vous voulez me contacter en direct, n'hésitez surtout pas, je suis présent sur LinkedIn ou sur le site fraudologie.fr. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle séance de fraudologie.